Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spiritualista.
Bonjour ou bonsoir, je suis Amel et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique dans lequel je partage avec toi mes solo time où je pars en totale improvisation, je dirais plutôt en introspection. On peut carrément dire que c'est mon âme qui entre en communication directement avec la tienne et je réalise aussi une fois par mois une interview avec une personnalité inspirante qui a des clés initiatiques à nous livrer pour nous permettre de vivre notre expansion de conscience dans la paix, l'amour et la joie. Oui, et de la joie, on en a bien besoin en ce moment pour garder notre vibration la plus haute possible, pour nous permettre d'avoir notre vision drone, celle qui nous permet de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe ici-bas sur Terre. Alors bienvenue à toi, mets-toi à l'aise, prends-toi un petit thé, c'est parti, c'est le nouvel épisode de Spiritualista. J'espère que tu vas kiffer, c'est parti. Bienvenue pour cet épisode 39 de Spiritualista, je suis ravie de vous retrouver. C'est un épisode avec un invité, mais je vais d'abord vous expliquer ce qui m'a donné envie d'inviter l'invité que vous allez découvrir aujourd'hui, qui s'appelle Alexis Tournier. Je lisais le livre « Nos âmes oubliées » de Stéphane Alix, que j'ai pas mal partagé ces derniers temps en story sur Instagram, livre que je vous recommande, qui est vraiment bouleversant. Et à un moment donné, dans ce livre, on a Stéphane Alix qui lance une enquête sur photo, en fait. Il a envie de connaître un peu l'énergie d'une personne, son entourage, et il envoie la même photo à plusieurs voyants, voyantes, médiums. Et à un moment donné, justement, dans le livre, Alexis Tournier apporte une description incroyable que j'ai trouvée vraiment implacable, et je me suis dit « Waouh !» C'est fou, j'ai envie de discuter et d'échanger avec cette personne. Alexis Tournier, il pratique la voyance depuis 15 ans. Il est cofondateur de la première agence française de consulting intuitif, Iris Intuition. Il est aussi formateur tarot voyance et moi, j'ai vraiment envie de parler avec lui de remote viewing. Bienvenue Alexis, bienvenue dans Spiritualista.
Bonjour Amel, bah, merci pour ta présentation, merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir de te rejoindre dans ce podcast. Super sympa.
Je suis ravie. Et tu sais, j'ai le remote viewing, on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast, c'est la voyance à distance et qu'on peut même apprendre à développer son intuition. J'ai vu ça dans des films, j'ai lu des enquêtes de la CIA. En fait, c'est toujours quelque chose qui m'a captivée et donc du coup, je suis hyper contente de pouvoir en discuter avec toi. Parce que c'est loin d'être de la fiction, c'est de la réalité, tu vas nous le prouver.
Oui, tout à fait.
Oui. Pour commencer, Alexis, on commence par vraiment le plus important. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement c'est quoi l'intuition ?
Alors l'intuition, si on voulait la définir, on pourrait dire un peu. D'ailleurs, c'est la définition qu'on lit dans le dictionnaire, c'est de la perception d'informations de manière non raisonnée. de manière non analytique, on pourrait dire aussi. Ça signifie que c'est voilà de l'information qui littéralement semble jaillir de nulle part. Hein, c'est-à-dire voilà, ça vient, pof, on capte quelque chose. Et alors moi j'aime bien dire que c'est de l'information. Donc c'est ça, c'est de l'information qui est obtenue de manière non conventionnel, non habituel, en dehors de toute communication traditionnelle et sans l'usage de ses sens. Et quand on veut faire, si tu veux, par exemple un test d'intuition, bah, ce qu'on fait, c'est on prend une enveloppe, dedans on met un objet ou la photographie d'un objet ou d'un lieu ou d'une personne.
Ouais.
Et puis, on demande plutôt à quelqu'un de le faire pour nous, parce que si on le fait soi-même, ça marche pas, évidemment. L'enveloppe est fermée, on peut pas voir le contenu, et l'objectif, c'est de décrire le contenu de l'enveloppe. Et la seule façon de le faire, bah, c'est d'utiliser son intuition. Et donc, si on fait l'exercice correctement, en suivant voilà toute une batterie de conseils, d'outils, etc., on peut mettre en valeur son intuition, apprendre à l'utiliser comme il faut, et on va arriver à donner des informations. Et naturellement, ensuite, on regarde le contenu de l'enveloppe, on voit si ça correspond ou pas. Et quand ça correspond, il y a deux possibilités. Soit on dit « Ah bah tiens, il y a eu un coup de chance ». Soit effectivement on se rend bien compte que il y a des correspondances. En fait, ce qui permet d'évacuer le hasard, c'est de faire l'expérience plusieurs fois, c'est de reproduire ce genre de test régulièrement pour voir si très régulièrement les résultats obtenus sont on va dire au-dessus de ce qu'on aurait simplement en bavardant au hasard sur le sujet de l'enveloppe.
C'est passionnant. Et toi Alexis, comment t'as développé ton intuition? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus disposés que d'autres à avoir une bonne intuition, ou c'est quelque chose voilà qu'on acquiert avec de l'entraînement?
Bah les deux, hein. On va avoir. Je pense qu'il y a une part de talent qui est là. D'ailleurs, il y a quelques recherches quand même qui ont été menées aussi sur ces sujets-là. Enfin, il y a beaucoup de recherches en fait sur le domaine de l'intuition, des capacités de voyance. Et ce qu'on sait par exemple, c'est que les gens qui se révèlent dans la vie assez créatifs, qui sont un peu artistes sur les bords, les gens qui ont beaucoup de sensibilité, une hyper émotivité. Bon, tous ces gens-là sont des gens qui ont des facilités et qui semble avoir une intuition très développée dès le départ. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que voilà, donc l'intuition, ça semble être c'est une propriété de la conscience, c'est une capacité humaine. Donc finalement, on pourrait dire que tout le monde possède cette capacité-là. Au même titre, par exemple, on a tous de la mémoire, on a tous une, tu vois, les muscles, ils ont une capacité de souplesse.
Hein. Oui, enfin, oui.
Donc, on vient tous avec un niveau de souplesse plus ou moins développé, et donc il y a des gens qui sont très souples très naturellement, il y a des gens qui sont beaucoup moins souples. Moi, par exemple, je suis pas souple du tout, je suis aussi souple qu'une barre de fer. je me casse, tu vois. Donc, mais par contre, on peut s'entraîner, on peut développer sa souplesse avec tout un tas. Et l'intuition, c'est pareil. C'est très très similaire. Donc c'est vraiment une compétence, c'est une capacité qui peut se travailler. Et donc le développement de cette capacité, l'utilisation de cette capacité, bah ça peut devenir une vraie compétence du coup. Voilà.
Bien sûr, mais oui. Et comment on peut faire le tri, tu sais, parce que tu nous l'expliquais tout à l'heure, voilà, on a beaucoup de pensées qui nous traversent, qui passent.
Oui,
et tout.
Ah oui.
Et justement, quand on essaye de faire un exercice intuitif, même parfois ça peut être dans la vie quotidienne, hein. Parfois on essaye de deviner, ah, est-ce que je passe par la gauche ou par la droite,
ben oui.
Ah tiens, à quelle heure va passer le livreur, est-ce que j'ai le temps d'aller faire mes courses, des choses comme ça.
Ouais.
Comment faire le tri entre ce qui est l'ordre de la croyance, du mental, de nos émotions? Comment on fait le tri là-dedans?
On peut pas faire un cours complet là dans ce podcast.
Bien sûr.
Non, mais voilà, parce que c'est ça effectivement qu'on apprend justement, parce que c'est ce que tu dis. C'est dès lors qu'on met en œuvre sa capacité intuitive, ça y est, on est assailli de tout un tas de pensées,
ouais.
Et donc ça devient une espèce de grosse salade dans la tête, quoi, hein, avec toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées. Et dans ces idées-là, alors évidemment, il y a des informations qui sont des informations intuitives, et puis il y a des choses qui sont pas du tout de l'intuition. Donc des interprétations, des idées, des émotions, des croyances, comme tu viens de dire. Donc il y a tout un tas de choses. Et alors, ce qu'on peut dire peut-être le conseil, le conseil de base, et qui peut paraître pour le coup très contre-intuitif, c'est que quand on fait un travail comme ça, quand on fait un exercice de voyance sur enveloppe, de travail de voyance en aveugle ou d'intuition en aveugle, il faut surtout pas chercher à trouver ce que c'est. Il faut surtout pas chercher à deviner. En fait, ça peut paraître très bizarre parce que on se dit il faut que je trouve. Enfin voilà, s'il y a une enveloppe fermée, il faut bien que je dise quelque chose sur le contenu.
Oui.
En fait, il faut surtout pas chercher à trouver ce que c'est. Donc, il faut être dans une posture de je perçois comment c'est. Il faut éviter de répondre à la question qu'est-ce que c'est, mais répondre à la question comment c'est. Donc, déjà, si on applique ça, en fait, on a déjà quelques éléments de méthode, on pourrait dire, en cherchant à décrire, non pas trouver. Décrire comment c'est et pas trouver qu'est-ce que c'est.
C'est hyper intéressant, c'est parce qu'en fait l'intuition, c'est comme si on passe par les contours en fait. On essaye toujours de rentabiliser le temps et d'aller direct et avoir quelque chose de très binaire, oui, non. Alors qu'en fait, on devrait plus imaginer et observer la scène un peu de l'extérieur, avoir une vision globale, c'est ça, une vision drone.
Oui, tout à fait. On va avoir en fait une perception, c'est comme si on allait avoir une perception du fond sans avoir forcément la forme. Donc, je sais pas, je peux prendre un exemple. Si on met la photographie d'un verre d'eau, tiens, un verre d'eau tout bête, un verre d'eau à l'intérieur de l'enveloppe, ben, on va avoir, si on cherche à trouver ce que c'est, on va chercher à dire, c'est un verre d'eau. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est plutôt d'arriver à faire la description de comment c'est. Alors, comment c'est? Ben, on va peut-être dire, par exemple, que c'est léger, que c'est pas gros, que c'est rond. Que c'est vide, on pourrait peut-être percevoir la couleur. Alors, peut-être que c'est surtout transparent, enfin sauf si je sais pas si c'est du verre de couleur, et puis que ça peut contenir un liquide, tu vois. Et donc on va faire la description de comment c'est, de comment sont les usages, tu vois. On peut arriver à trouver tout un tas de choses et sans jamais dire que c'est un verre d'eau.
Ouais, on est périphérique et ensuite c'est en mettant tous ces éléments bout à bout qu'on arrive à avoir une lecture de ce que c'est ça.
Au bout d'un moment, parce que évidemment ce qui nous intéresse c'est quand même d'arriver à donner des infos, puis pourquoi pas à la fin identifier un peu ce que c'est, ou en tout cas très proche, mais il faut surtout éviter de vouloir trouver ce que c'est dès le départ. Et donc il faut être dans la description. Voilà. Donc c'est facile à dire, c'est pas facile à faire.
C'est clair.
On a tous notre partie mentale, notre ego qui veut trouver, qui supporte pas en fait cette idée de parce que c'est ce que tu dis. On est très rapide, on voit, on prend pas le temps d'observer.
Oui. C'est ça. En fait, je pense que, mais bon, toi, tu le sais, parce que voilà, tes formateurs étaient spécialisés justement sur ce sujet-là, mais on doit d'abord passer par un espèce de déconditionnement quand même avant de pouvoir vraiment se connecter à tout ça.
Ben oui, bien sûr. Et puis alors, il y a beaucoup de croyances aussi en termes d'intuition et de voyance, etc. Des fois, des croyances d'ailleurs entretenues par les voyants eux-mêmes, qui consistent à croire que la voyance, c'est voir avec ses yeux ou voir tout court avec une espèce de vision intérieure et qu'on verrait tout de go, comme ça, le contenu de l'enveloppe. Malheureusement, ça marche pas comme ça, c'est pas si simple. On va avoir une espèce de perception globale interne par tous ces sens intérieurs. Tu vois, intuition d'ailleurs, ça veut dire intérieur. Enfin, ça veut dire je vois de l'intérieur. Intérieur et intuition d'ailleurs, c'est la même racine latine, c'est INT qu'on retrouve d'ailleurs en anglais dans into. Donc ça veut bien dire que c'est à l'intérieur que ça se passe, et c'est vrai que toutes les infos qui vont se manifester, ce sont des informations qui vont arriver de manière fragmentaire, un peu à la manière d'un puzzle. Donc, et c'est comme si on recevait les informations en pièces détachées, avec comme un puzzle dont on n'aurait que les pièces, sans connaître l'image finale. Donc on va avoir des petits bouts par-ci, par-là, de manière un peu désordonnée, sans avoir finalement une grande compréhension logique de tout ça. Et alors le truc, c'est que voilà, on a le mental, on a l'ego qui réfléchissent en même temps.
Bien sûr.
Au fur et à mesure qu'on a des pièces de puzzle, Ben, c'est comme si tu avais le mental qui est en train de se dire, ah ben ok, cette pièce-là, elle va avec celle-ci, et puis ça va avec cela. Et puis en fait, ben, c'est le mental qui compose en fait sa propre interprétation, qui essaie d'assembler des pièces qui vont pas forcément ensemble entre elles.
Eh oui.
Et c'est ce qui amène parfois, voilà, à des interprétations qui sont complètement erronées, complètement fausses. Et ça, c'est souvent en fait parce que le mental, l'ego en fait, veut trouver, supporte pas cette idée d'incertitude comme ça,
C'est ça.
ce travail qui est en fait un peu un travail en aveugle. Quand on veut faire un travail intuitif comme ça, bah, il faut rien savoir sur le sujet sur lequel on parle. Et donc c'est vrai que c'est très troublant parce qu'on est là comme ça dans un espèce de saut dans le vide. C'est vrai, c'est pas du tout naturel. C'est comme se jeter dans le vide, c'est pas du tout naturel.
Ouais, c'est passionnant vraiment parce qu'en plus ça met en exergue voilà ce côté entre le mental, entre les informations qu'on peut recevoir, ressentir dans le cœur avec les émotions et tu sais Alexis un peu comme Stéphane Alix, moi aussi j'ai vécu l'expérience de l'ayahuasca.
Ah oui.
Et
Oui.
vraiment pendant l'ayahuasca, on ressent vraiment cette bataille intérieure en fait
Ouais.
entre les informations qu'on reçoit voilà d'une espèce de super conscience beaucoup plus grande que nous
Bah
et
oui.
le mental qui essaye de comprendre, d'analyser alors que
Ouais.
c'est pas ce qu'on lui demande là, on lui demande juste de recevoir.
Bah
Et
oui, c'est très bien.
hyper intéressant. Et je me posais la question parce que finalement, notre approche de l'intuition, elle nous est très personnelle. Et il est possible que certaines personnes soient totalement intuitives et depuis toujours et pensent maladroitement que tout le monde a les mêmes capacités. Et donc, ça peut être assez troublant de se dire, pensant que nous-mêmes, notre vision et notre ressenti est la norme, de se dire, mais pourquoi cette personne ne ressent pas et ne voit pas la même chose que moi?
Bah, oui, je vois
Ça peut
très
être
bien.
très troublant en société. Et du coup, comment on peut jauger, connaître si on est intuitif ou pas?
Bah, en faisant des petits tests comme on vient d'expliquer,
Ouais.
mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi c'était un peu mon cas, hein. Je pensais que tout le monde avait de l'intuition comme ça. On disait voilà au tout début de l'entretien de l'épisode que voilà il y a à la fois une forme de talent bien sûr de capacité. C'est une capacité qui peut être là. Assez développé dès le départ, mais il est évident que bon, voilà, c'est comme toute chose. Quand on travaille sur une capacité, on peut développer son talent en faisant pas mal d'exercices. On peut vraiment s'améliorer, et puis on développe une vraie compétence. Donc, on peut vraiment progresser. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent, par exemple, que l'intuition, ça n'existe pas.
Oui.
C'est complètement, voilà, quelque chose qui relève de biais cognitif. Et puis c'est tout, et que c'est du raisonnement inconscient. Hein, et d'ailleurs, il y a une forme d'intuition, c'est ça, effectivement. Mais
Oui.
pour ces gens-là, pour qui finalement cette perception qu'on pourrait dire perception extrasensorielle, pour ces gens-là, ça n'existe pas. Alors, tu sais, quand tu crois que quelque chose n'existe pas, ben, en fait, cette chose-là, tu ne la vois jamais.
Exactement, oui.
Donc tu ne peux pas faire l'expérience d'une bah, de ce genre de perception quand tu penses que ça n'existe pas. Tu vois, c'est une
Ben
sorte
oui, la
de
porte est fermée en
clairvoyance.
fait.
Voilà,
Oui.
voilà. C'est le truc est bloqué, c'est fermé, c'est verrouillé. Donc les gens par exemple qui sont comme ça très extrêmement réfractaires à tous ces sujets-là ne pourraient vivre des expériences de ce genre que dans le cas de choc, dans le cas de traumatisme. C'est d'ailleurs souvent comme ça, enfin souvent, il y a plein
Ouais.
d'histoires de témoignages qui disent, enfin qui racontent, voilà, des gens racontent que c'est à la suite de chocs, qu'ils ont commencé à sentir des choses, qu'ils ont commencé à devenir voyants ou avoir beaucoup beaucoup d'intuition. Ben oui,
Oui.
ils n'étaient pas du tout préparés parce que voilà, c'était pas du tout dans leur champ de vision en quelque sorte. On ne voit que ce que l'on croit qui existe. Donc
Ouais.
si on part du principe que cette capacité-là n'existe pas, bon, en fait, finalement, on va tout simplement pas la vivre, sauf à vivre un choc qui un jour nous secoue et puis ébranle complètement l'inconscient et fait surgir cette capacité.
Et du coup, ça va nous amener à un sujet qui me fascine absolument. Et pour toi, c'est une partie de ton activité professionnelle et je pense aussi que c'est une passion. C'est
Ouais.
le remote viewing.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle en français la voyance à distance.
Ouais, ou vision à distance. La traduction littérale, ce serait vision à distance.
Vision à distance. On dirait une traduction
Oui.
canadienne.
Oui, non, mais ouais, c'est ça. Ça fait. Mais ça, c'est très bizarre de penser que ça s'appelle comme ça. Hein.
Oui, et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le remote viewing, s'il te plaît?
C'est le nom qui a été donné aux États-Unis à un protocole de travail qui consistait donc voilà un protocole qui est rentré dans le cadre de recherches qui étaient menées sur l'existence de l'intuition et sur l'utilisation de l'intuition, des recherches qui étaient menées dans des laboratoires de recherche notamment au Stanford Research Institute en Californie et qui ont été ensuite financées par le gouvernement américain via tout un tas d'organismes dans le but d'en faire un programme de à la fois donc un programme de recherche, mais surtout un programme d'entraînement pour des militaires. Et donc, d'expérience en expérience, ça a duré des années et des années, le programme s'est appelé Remote Viewing. Donc,
Oui.
le programme s'est appelé Stargate, et puis le protocole de travail s'est appelé Remote Viewing. Donc, c'est une méthodologie de travail, en fait, le Remote Viewing. C'est une méthodologie de travail qui exige que l'intuitif ou le voyant fasse un travail en aveugle, évidemment. Si c'est pas en aveugle, c'est pas du Remote Viewing. Donc, aveugle, ça veut dire on ne sait rien sur le sujet sur lequel on travaille, tu vois, ou très très peu de choses.
Oui.
Et puis le remote viewing, c'est aussi donc une méthodologie, un protocole que l'on va suivre et qui va permettre d'aider et d'accompagner l'expression de ses de ses intuitions. Donc, voilà, il y a plein de donc c'est assez réglé. Il y a tout un protocole qui est à suivre.
Et donc, en fait, au début, Alexis s'était développé pour l'espionnage à distance. C'était vraiment une sorte d'arme militaire.
Ah ben oui, on peut dire
Ouais.
ça comme ça. Alors ça fait un peu fantasmé quand on dit ça, mais
Ouais.
bon, c'est vrai que y a eu un programme civil et un programme militaire avec à
Ouais.
l'origine des recherches en laboratoire qui étaient bon ben voilà qui étaient dans un laboratoire de recherche qui était pas militaire. Et effectivement, il y a eu un programme qui a duré 23 ans qui était financé par le gouvernement américain et effectivement le but c'était d'employer ça dans un but de renseignement. C'était le but
Oui,
de renseignement,
tout
de
à fait.
générer, de créer, de former en fait des agents, des militaires, donc des militaires, de les former pour en faire des agents du renseignement par l'intuition.
Ouais, c'est totalement passionnant et en me documentant un petit peu sur le sujet, j'ai vu qu'ils avaient la capacité de faire un travail en groupe et que chaque remote viewer avait sa propre capacité. Par exemple, il peut en avoir un qui est visuel, du coup, qui va faire des croquis, des dessins, un qui va capter un peu les champs énergétiques, ce que pensent les gens, un qui sera plus abstrait, qui va pouvoir capter des tendances comme ça monte, ça descend. Ou des couleurs. Et j'ai trouvé ces aptitudes, en fait, le fait de travailler comme ça en équipe, mais ça doit être
Ah bah oui.
fascinant. T'as déjà bossé comme ça, toi,
Ah bah
Alexis?
oui, bien sûr.
Ouais.
C'est ce qu'on fait en fait chez Iris Intuition, hein, qui est une agence de renseignement intuitif. On
Ouais.
travaille alors pas pour l'armée, mais on travaille pour des clients divers et variés. Et donc
Ouais.
le process, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intuitifs sur le même sujet. Et donc chaque intuitif va être interrogé indépendamment de l'autre. Les intuitifs ne savent pas ce que les autres ont dit. Voilà, c'est un travail en aveugle. Tout est très, comment dirais-je, voilà, très, très,
Calibré,
voilà,
cadré,
voilà,
ouais.
exactement,
Ouais.
exactement. Et ensuite, c'est un analyste qui fait la synthèse des informations données par Pierre, Paul et Jacques. Enfin voilà, qu'est-ce que lui a dit? Il a dit ça, ça, ça et ça. L'autre, il a dit ça, ça et ça. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que chaque intuitif peut avoir un peu ses spécificités. Il y en a qui savent
Oui.
très bien dessiner, alors ils font des super croquis.
Ouais.
D'autres, ben, savent pas du tout dessiner, mais vont parler beaucoup plus facilement de certains sujets. Voilà. En fait, les centres d'intérêt et les talents de chaque intuitif vont entrer complètement dans le comment dirais-je, voilà, dans le champ d'investigation, et puis les intuitifs vont être connus pour leur capacité et puis pour ceci pour cela, et voilà. Donc
Mais j'ai une question là qui me vient de pop-up là dans ma tête, Alexis. Donc finalement, c'est un peu aller faire parler le futur en fait, ramener le futur un peu là dans notre dimension, en prendre prendre toutes les grandes tendances. Et je me disais que finalement, toi, quand tu observes, je sais pas, l'actualité, les événements, les choses, quelle vision tu en as, toi? Est-ce que tu vas au-delà de la proposition qu'on nous fait, comme si on nous vendait un script et toi, tu vois déjà la fin du film?
Oui.
Ou tu as un regard critique et tu sens que parfois, c'est une timeline qu'on nous propose qui n'est pas la timeline du réel?
Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Une remarque, c'est pas que sur le futur, hein, la perception intuitive, hein, tu peux percevoir sur des choses qui sont passées, présentes, enfin, tu vois. Voilà. Mais alors, bien sûr, après, quand il s'agit de parler du futur, j'ai pas d'exemple là, mais ouais, complètement. De toute façon, moi, j'utilise mon intuition en permanence, en fait.
Donc, oui.
À chaque fois que quelqu'un ou quelque chose me dit voilà ça va se passer comme ça dans un an ou dans 6 mois ou dans 2 ans ou dans 10, moi il y a toujours une espèce d'état de vigilance quelque part qui se met en mode perception et puis qui dit ok, alors on me dit dans un an ce sera comme ça, et alors moi mon intuition elle me dit quoi? Donc, ce sera comment? Et effectivement, alors des fois tu tombes juste et tu tombes sur la même chose, puis des fois tu tombes sur un truc qui n'a rien à voir. Et en effet, du coup, tu te dis, ok, ces gars-là, ils sont bien gentils, ils nous disent que ça va faire ça, ça et ça. Moi, je crois que ça va plutôt faire ça, ça ou ça. Voilà. Donc, c'est faut être prudent quand même, parce qu'on peut se tromper, bien entendu.
Bien sûr.
Mais
parce que tu sais, souvent, on parle de l'agenda 2030. Tu vois, voilà, c'est le sujet en prédictive. On parle de l'agenda 2030. Et j'adore écouter les vidéos sur YouTube de Philippe Guillemant. Et lui, dans sa vision très analytique aussi, dans ses prédictions énergétiques, il part du principe que vraiment, il va avoir deux grosses tendances, limite deux mondes, deux mouvements. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois, toi?
Ouais, complètement. Alors, je sais pas exactement ce qu'il dit Philippe Guillemant sur ce sujet parce que j'ai pas écouté nécessairement ces vidéos-là.
Ouais.
J'aime beaucoup Philippe, on se connaît un petit peu.
Un chercheur au CNRS, ouais.
Voilà, tout à fait. On s'est rencontrés plein de fois. Mais je sais pas ce qu'il dit sur ce sujet-là, mais en effet, je sais pas. Je sais plus ce que c'est.
Est-ce que toi, tu captes cette tendance, d'une division un peu énergétique entre deux tendances, deux grands chemins qui sont tracés?
C'est vrai que j'ai une espèce de drôle de sensation, si on devait comme ça un peu décrire un peu la façon dont je vois les choses. C'est vrai que j'ai la sensation, là, on enregistre, on est en 2022. Grosso modo, j'ai l'impression qu'on a 8 à 10 ans devant nous qui sont... J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place, qui se mettent en œuvre, qui se construisent, qui quelque part d'ailleurs m'ont l'air assez intéressantes, même à l'échelle de la France, peut-être même aussi. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui change complètement, effectivement, à l'horizon 2030. Et je sais pas exactement ce que c'est, mais tu vois, par exemple, sur la France en tant que telle, ça me donne l'impression que là, on a bientôt des présidentielles, et puis dans 5 ans, il y en aura encore d'autres.
Oui.
Donc en gros, il y a 10 ans, là, voilà.
Ouais.
Il y a 10 ans, et ben moi, ça me donne l'impression que une fois que ces 10 ans vont être passés, et ben j'ai l'impression qu'ensuite c'est plus du tout pareil. J'ai l'impression que c'est plus du tout pareil. C'est limite comme si c'était même plus du tout le même régime politique. Alors, merde, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Et j'ai tout à fait la sensation qu'il y a autre chose qui va en fait se construire dans la deuxième partie des 10 ans, donc c'est-à-dire dans les pas ces 5 ans qui viennent, mais
donc,
les 5 autres.
Prochain, ouais.
Voilà. Et donc je me dis, c'est pas impossible qu'en 2032, donc en 2032 dans 10 ans, mais je me dis, je sais pas si on va élire un président de la République. On dirait que c'est autre chose.
Oh, waouh!
Alors ça fait partie de certaines choses comme ça qui m'apparaissent comme ça un petit peu en 2030. J'ai la sensation d'ailleurs que là, par exemple pour la France ou pour l'Europe, c'est pas forcément. Enfin, je suis pas pessimiste en fait pour les 10 ans qui viennent. J'ai la sensation qu'il y a. Enfin, moi, dans mon. dans mon corps et dans ma vie, j'ai plutôt l'impression que ça va être extrêmement bénéfique. Donc tant mieux, mais j'ai l'impression qu'ensuite, c'est vrai qu'il y a un peu comme un autre monde. Ouais, alors je sais pas trop quoi, mais bon voilà, et on sent qu'il y a après il y a des choix aussi que l'humanité doit faire ou pas faire.
Bien sûr.
Il y a des énormes crises qui arrivent, ça il y a quand même pas bien besoin d'être intuitif pour le dire. mais c'est vrai que bon oui, il y a énormément de bouleversements bien entendu qui
Moi,
j'adore la prospective et je travaille régulièrement sur ces sujets-là, notamment voilà sur 2030, 2050, comment je vois le monde plus tard, etc. Et c'est vrai que on ne sait pas toujours très bien quel chemin ça va prendre, mais des fois on voit certaines situations qui ont l'air d'exister dans le futur. On ne sait pas tellement quel chemin, enfin comment on fait pour se rendre de maintenant à cette situation dans le futur. Donc ça peut faire un peu peur. Moi je flippe parfois quand je me dis oh là là, mais en 2050 ou en 2070, comment c'est le monde? Moi j'ai l'impression que je reconnais pas du tout la vie dans laquelle je suis ou quoi. Enfin bon, après c'est logique. Donc il y a des choses qui sont comme ça un peu flippantes, voilà, mais bon, en même temps tu te dis demande à quelqu'un qui serait né en 1920 de faire la description de l'an 2000, rien que tu vois, il y a 100 ans. Donc, moi, ce que je pense aussi, c'est que là, dans les 10-15 ans qui viennent, on va avoir des bouleversements gigantesques du point de vue technologique, du point de vue cognitif, du point de vue qui sont de nature presque à nous changer nous en tant qu'humains. Et ce sont des changements auxquels il faut se préparer parce que il y a un gros risque en fait de décrochage. Pour les personnes qui se remettent pas en question, pour les personnes qui, tu vois, ça me fait penser un peu, alors c'est une comparaison un peu facile, mais ça me fait penser à tous les gens qui ont pas voulu se mettre à Internet.
Ah oui.
Alors ceux-là, bon, ben, t'es complètement largué dans le monde d'aujourd'hui si tu veux pas t'y mettre, quoi.
Bien sûr. Mais oui. Et ça arrive vite en plus, oui.
Donc moi, ça me donne l'impression qu'il y a des choses comme ça qui vont exister, des changements comme ça. Sur le plan technologique, mais je me dis même sur un plan comportemental, sur un plan psychologique, sur un plan spirituel, c'est-à-dire que si on n'accepte pas de s'y mettre dans un travail de développement personnel dans les 10 ans qui viennent, bah en fait on pourra plus vivre comme il faut, quoi, en fait.
Waouh. Ah oui, c'est fou, quoi. Mais tu sais, c'est incroyable parce que tu me parles de développement technologique et tout ça. Il y a quelques jours, j'ai regardé le film de Steven Spielberg, Ready Player One.
Ah oui.
Et en fait, écoute, Alexis, j'ai besoin que tu répondes à cette question, c'est hyper important pour moi. Est-ce que certains scénaristes hollywoodiens sont des remote viewers ou des gens qui font des canalisations, ou est-ce que... tout ça, là, parce qu'il faut savoir que Ready Player One, il a été tourné, je crois, en 2014-2015.
Ouais.
Là, on nous parle du métaverse et de tout ça, tu vois. C'est intimement lié, et même l'univers un peu post-apocalyptique du film. Est-ce que des scénaristes sont des voyants, en fait?
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah moi je crois que oui.
Oui.
Ah ouais, je crois que il y a une grande de toute façon il y a une grande porosité entre l'inspiration qu'on pourrait qualifier d'artistique et l'intuition.
Oui.
Donc au fond, même quand on crée quelque chose, on a besoin d'inspiration, et cette inspiration, elle est pas très très éloignée d'une forme d'intuition. Donc moi je crois que oui, beaucoup de gens qui qui sont scénaristes sur des sujets de science-fiction, qui vont faire des travailler sur des trucs d'anticipation, sur des projets d'anticipation. Moi, je crois qu'il y a une part d'intuition qui rentre en jeu, c'est une évidence.
Ok.
Et par ailleurs, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, mais un des scénaristes du film Matrix.
Oui.
Date un peu, bon voilà.
Ah oui, c'était deux frères et même, enfin, elles ont toutes les deux changé de. En fait, c'était deux frères. Elles ont changé de sexe. Maintenant, c'est deux sœurs.
Oui.
Et c'était les frères. J'ai oublié leur nom aussi. Mais
aussi, oui, j'ai oublié leur nom. Oui. Mais en tout cas, mais je sais même pas si c'est eux ou si c'est quelqu'un qui a travaillé à l'élaboration du scénario comme une sorte de consultant extérieur, mais qui en fait a une vraie, comment dirais-je, une vraie parenté avec toutes les recherches de remodeling dont on parlait.
Et tu sais, j'ai un scoop incroyable sur l'équipe de tournage. Là, tu sais, il y a eu Matrix 4.
Ouais.
Moi, j'étais au Pérou et juste après mon séjour au Pérou, j'ai une de mes meilleures amies qui allait à Tarapoto aussi au Pérou et elle a rencontré un chaman là-bas qui lui a dit que toute l'équipe de tournage après le tournage de Matrix 4, en fait, justement, les deux réalisatrices leur ont proposé une séance d'ayahuasca à tous.
Ah oui, oui.
Et que visiblement, c'était un peu ce qu'ils faisaient à la fin de chaque Matrix, en fait. Ils se retrouvent et ils font une séance ensemble. D'accord. J'ai trouvé ça incroyable. Bah, et en même temps, pas étonnant.
Oui. Bah, oui, mais c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant.
Ce côté émulation totale, c'est-à-dire Matrix, le film, mais en même temps, même quand on sort de la fiction, on poursuit le voyage, quoi.
Ouais, le voyage spirituel. C'est ça. C'est vrai que ça stimule énormément l'inspiration aussi. Hein, donc,
Et vu que ça a été proposé par les réalisatrices, je me dis que finalement, je pense qu'on peut canaliser énormément de choses grâce à ces substances-là, entre autres. Mais ça aide, du coup. Je pense que même si on a un canal intuitif qui est ouvert, le fait de le développer. Et je pense que ça le développe même après la prise, en fait.
Bah, moi, en tout cas, pour ce qui est de mon expérience personnelle, j'en ai pris il y a une vingtaine d'années.
Ouais. Et c'est là que tout a commencé, Alexis.
Ça a commencé avant, mais c'est des expériences extrêmement puissantes dans ma vie qui m'ont laissé un souvenir incroyable. Et ça m'a permis de recaler beaucoup, beaucoup de choses, justement, dans les expériences un petit peu bizarre ou perché que je pouvais avoir dans mon enfance et dans mon adolescence. Ouais. Et ça m'a permis de donner du sens ou de comprendre tout un tas de choses qui m'arrivaient auparavant et aussi de me tracer une route, en fait, sur la suite. Donc, ça m'a énormément construit.
Oui, ça permet aussi de se recentrer, c'est vrai. Et c'est bon, je te parlais là du cas de Steven Spielberg, mais je pense aussi, tu bosses aussi pour une agence de consulting, qu'une personnalité comme Jacques Attali, lui aussi, qui a l'air hyper au courant de plein de choses et depuis des années et des années, est-ce que toi tu le ressens aussi connecté à du remote viewing ou de la voyance ou quelque chose comme ça?
Je sais qu'il s'intéresse à ces sujets, c'est-à-dire les recherches il s'intéresse à énormément de sujets, y compris les sujets qu'on pourrait appeler les sujets parapsychologie.
Ouais.
Moi, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il en parle dans certains de ses bouquins. Il parle notamment des expériences, des recherches qui ont été menées sur le pressentiment, dont les papiers qui ont été faits en termes de publications scientifiques attestent l'existence de cette capacité-là. Et donc, il en parle dans un de ses bouquins de tout ça, sans s'étaler dessus, mais tout en disant qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur la nature de la conscience et de comment cette conscience interagit avec d'autres consciences et aussi avec le monde physique. Donc, il laisse la porte ouverte. Je pense qu'il connaît ces sujets, s'y intéresse. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de prospectives aussi.
Oui.
Mais je sais pas si... Enfin, moi, je l'ai jamais rencontré. Il a jamais fait appel à nos services ou quoi, enfin voilà.
Mais je te pose cette question parce que tu vois, depuis le début de la crise sanitaire, il y a beaucoup de séquences vidéo, tu vois, de Jacques Attali au milieu des années 80, 90. On a l'impression qu'il a toujours conseillé les présidents français, mais depuis 40 ans, il a toujours été dans le décor. Genre, les présidents passent, repartent, mais lui, il est toujours là. Ça se trouve, c'est peut-être lui, notre président depuis 40 ans. Et donc, ouais, et quand tu vois les extraits vidéo, tu dis, non, mais en fait, le mec, il est en train de décrire le monde dans lequel on vit là maintenant. Donc, c'est assez troublant, quoi.
Oui, c'est sûr. Après, c'est un esprit brillant, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a aussi un esprit de synthèse. Donc, voilà, on peut aussi anticiper des choses sur le futur sans forcément être intuitif au sens où on l'entend.
D'accord.
Cela dit, je pense qu'il l'est un peu, ou beaucoup. Donc,
Ouais.
il y a tout qui rentre en ligne de compte. Mais enfin, bon, je serais quand même étonné d'apprendre que Jacques Attali fait du tarot ou des séances de remote viewing. Mais va savoir, on n'en sait rien.
Et je voulais te demander aussi, est-ce que les enfants ont plus de facilité à développer leur intuition?
Bah oui, bien sûr. Enfin voilà, et ça c'est pareil, ça il y a eu des recherches sur ça et donc on le sait, les enfants, bah voilà, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais les enfants ils sont dans la spontanéité, ils sont moins dans le calcul, ils sont moins avec leur ego en fait, hein. Donc oui, les enfants, c'est
Ils
assez
sont.
naturel.
Ouais. Et en fait, du coup, en partant d'un enfant, on a possibilité de faire en sorte que sa capacité intuitive grandisse avec lui, de l'accompagner.
Ben, je pense que voilà, si t'as, si, ça va dépendre des parents qui sont autour. Ben, des parents qui sont un peu ouverts sur ça, qui vont laisser, par exemple, tu sais, les enfants, ils sentent plein de trucs, ils sentent plein de choses, ils voient des choses, même des fois aussi.
Bien sûr.
Combien de parents moi me racontent, ben, vous savez, mon fils, il me dit qu'il voit quelqu'un dans la chambre et tout ça. Alors bon, ben, si on dit au gamin ou à la gamine, oh ben, tais-toi, c'est pas vrai. Enfin, ça va enfermer l'enfant et c'est horrible. Si on laisse s'exprimer dans ça, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? En tout cas, lui, il vit une expérience, donc il faut l'écouter, l'entendre. Et si on est dans l'accompagnement de ça, ou en tout cas dans comment dirais-je, dans une écoute ouverte, bienveillante, accompagnatrice, bah, en fait, l'enfant, il va pouvoir s'épanouir et puis être perturbé par tout ça et même vivre ça finalement longuement dans sa vie plutôt que de réfréner ça comme si c'était mal, comme si, hein, tu vois?
Ouais, complètement. Et Alexis, est-ce que toi, tu as la capacité à lire, à voir pour toi, en fait, dans la vie, quand tu as des questionnements, des doutes, est-ce que tu arrives à le faire pour toi-même?
Ouais, j'arrive globalement, oui. Globalement,
Oui?
oui. Ouais, globalement, oui. Là où ça devient difficile quand même, c'est quand j'ai vraiment un gros enjeu affectif et émotionnel au milieu de la problématique qui m'intéresse. Bon, voilà, si j'ai vraiment une grosse, grosse... Là où je vais vraiment pas être bon, par exemple, bah, c'est... Si par exemple j'ai un souci financier important, tout ça qui me panique, je vais être complètement nul. Là, je peux pas faire de l'intuition, je peux pas sentir quoi que ce soit de juste, parce que je vais avoir peur de ça. En fait, tu vois, c'est ma peur, c'est mon émotion qui prend toute la place.
Ouais, qui parasite.
C'est ça. Et en fait, voilà, pour bien travailler son intuition, surtout sur des sujets qui nous concernent, quand on veut faire un travail intuitif sur soi-même, il faut arriver à se départir de ses émotions, de ses sentiments. Si on a beaucoup d'attentes, si on a beaucoup d'espoir ou si on a beaucoup de peur, c'est très compliqué, en fait.
Bien sûr, bah ouais, ça paralyse, ça parasite tout
Ça
process en
parasite, et
fait.
voilà, c'est comme si toute l'émotion se projetait, en fin de compte, à la place de l'intuition.
Ouais.
Peu, hein, le bordel que ça fait.
C'est sûr.
Spiritualista.
Et j'ai vu qu'en fait, dans les voilà, ces capacités à prédire le futur, l'intelligence artificielle aussi peut être utilisée pour faire des prédictions. Est-ce
Oui.
que tu penses que l'intelligence artificielle peut dépasser la capacité humaine sur ce sujet?
Sur la prédiction du futur,
Ouais.
non, je pense, enfin, c'est possible qu'elle y arrive dans quelques temps. Mais l'intelligence artificielle, elle ne fait que des calculs
Oui.
avec des données que tu lui donnes en entrée, quoi, et
Ouais.
que tu lui donnes au départ, quoi. Donc, peut-être qu'effectivement, elle peut une intelligence artificielle sortir des scénarios, enfin des scénarii probables, etc. Mais non, moi je pense pour l'instant, je pense que une conscience individuelle, une conscience intuitive, pour faire la description, par exemple, de comment on peut être, je ne sais pas moi, comment c'est vivre dans une ville occidentale en 2070, par exemple.
Oui.
Ben, j'aurais plus envie de faire confiance à un groupe d'intuitifs qu'à une intelligence artificielle.
Ok. Oui, c'est intéressant, oui, parce que finalement, l'humain reste peut-être plus connecté à l'humanité.
Oui, ouais. Ouais. Et puis parce que une intelligence artificielle va rien inventer. Elle peut rien trouver d'innovant. Et parce qu'en fait, elle ne fait que compiler des données qu'elle a déjà, enfin, qu'elle a déjà ou qu'on lui a mis, hein. Tu vois, c'est une machine, en fait.
Il faut lui donner à manger et ensuite.
Voilà, pour lui donner à manger et après, elle va ressortir un truc. Ouais. Mais elle va juste recompiler des informations et mélanger des trucs, sortir un bidule. Bon. Alors, elle peut faire toutes sortes de statistiques en se disant, voilà, ça, enfin, voilà, comme un joueur d'échecs, en fait. Enfin, comme un, ouais. Qui analyse toutes les variables possibles. Mais au final, elle peut pas trouver quelque chose qui ne s'est jamais produit, par exemple.
Oui. Et Alexis, est-ce que tu as déjà été surpris par quelque chose que tu as ressenti ou vu ou capté?
Sur des choses futures?
Ouais.
Ah bah oui. Oui. Bah, ouais. Oui. Mais j'ai des perceptions qui, moi, je trouve, enfin, qui sont assez effrayantes. De mon point de vue de mon point de vue d'humain en 2022, j'ai l'impression que voilà vivre en 2070 par exemple, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué, c'est que j'ai l'impression que la société est plus du tout pareille, la civilisation est pas la même et enfin, pour te donner un exemple, un truc moi que je trouve un peu flippant, c'est cette perception. Alors, je sais pas si c'est vrai parce que là, je vais te dire un truc, mais bon, tant qu'on n'y est pas, on n'en sait rien. Ça me donne l'impression, par exemple, que à partir de 2050 ou de 2060, il faudra avoir un permis pour avoir un enfant.
Oh, mais tu sais quoi, c'est incroyable. Tu sais que j'en ai déjà parlé de ça.
Ah oui. Bah, ça m'étonne pas parce que c'est bah, parce que c'est les
mais,
idées.
Mais en fait, tu sais quoi? Je sais pas si tu connais Lulumineuse.
Non.
En fait, avec Lulumineuse, j'ai enregistré un épisode qui partage énormément de clés spirituelles depuis énormément d'années. Et en fait, on parlait de la responsabilité d'être mère. Qu'est-ce qu'on transmet à un enfant? Et donc, forcément, à un moment donné, elle avait sorti, bon, un peu comme une punchline, on devrait avoir un permis pour être mère. En fait, un permis d'être une bonne mère, en fait, d'être une mère qui accompagne et qui aime. Voilà. Et là, le fait que tu me le dises, je suis en mode, ah oui, ok.
Alors, écoute, moi, je crois très fort qu'on y arrivera. Alors, on y arrivera, c'est pas tout de suite. Mais j'ai l'impression, par exemple, qu'en 2060, 2070, ça existe et ça existera, je pense, dans beaucoup de pays du monde. Donc, si ça existe en 2060, 2070, c'est qu'il y a des tas de choses qui se mettent en place bien avant.
Bien sûr.
Et donc, on imagine les révolutions sociales que ça représente, parce que ça veut dire quoi avoir un permis? Ça veut dire quoi? Il faudra passer un examen? Est-ce qu'il faudra répondre à quels critères?
Ça me fait vachement penser au livre d'Aldous Huxley qui a écrit entre autres 1984, où c'est la sélection génétique en fait.
Il y a ça, alors là, voilà, donc c'est de la sélection, parce qu'il y a peut-être aussi un problème de surpopulation, donc c'est aussi une façon de résoudre peut-être ce problème-là, et puis c'est peut-être aussi des questions de droits de l'enfant poussées à leur extrême, c'est-à-dire que finalement, un enfant, quand il vient au monde, il faut qu'il ait des parents, il n'a pas le droit d'avoir des parents... Avoir des parents défaillants, c'est horrible pour un enfant.
Bien
et ça
sûr. Revient
à la conversation. Alors, une bonne mère, un bon père, mais c'est quoi une bonne mère et un bon père, quoi?
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai qu'on a tous déjà vu des histoires, des gens, enfin voilà, où on se dit, mais c'est pas possible, ces gens-là, comment ils élèvent leurs enfants? Ils voudraient mieux pas qu'ils en aient. Et c'est une évidence. Mais bon, voilà. Alors, tu vois, ça fait partie des choses qui quelque part, moi, le jour où j'ai perçu ça, ça m'a fait flipper. Et en même temps, pour les gens qui vivent en 2060 ou 2070, ce truc-là existe, et pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, c'est aussi que, voilà, moi, c'est mon point de vue de citoyen de 2020, qui n'est pas dans la société de 2070. Et du coup, bon, c'est un peu comme si tu disais à des gens de 1910, vous savez, dans 100 ans, on pourra se marier entre hommes ou en femmes. Enfin, je veux dire, ou échanger de sexe aussi, tiens.
Ouais.
Voire même dire qu'on n'est plus ni homme ni femme. Enfin,
c'est ça. Mais oui, bien sûr.
Qui paraissent complètement insensés rétrospectivement.
Oui.
Donc voilà, donc on est confronté à des choses comme ça. Bon, voilà, ça fait partie des petits trucs. Donc moi, ça m'a déjà choqué. Un autre truc qui que je trouve très, enfin très chouette, et là pour le coup, ça m'a choqué aussi, mais dans le bon sens, c'est que moi, ça me donne la sensation que dans les 30 ou 40 ans qui viennent, on va avoir des progrès scientifiques, médicaux, absolument considérables, qui sont de nature à faire augmenter l'espérance de vie de 20, 30, voire 40 ans d'un seul coup.
Ouais.
Et du coup, alors, d'un seul coup, c'est peut-être pas d'un seul coup en fait, mais donc il y a quelque chose qui fait que, par exemple, les enfants qui viendront au monde en 2050 auront de manière automatique une espérance de vie de 120 ou 130 ans.
Mmh. Ok, waouh!
Mais
j'ai l'impression que la médecine quantique risque de passer par là, peut-être.
Ah ben, je pense qu'il y a des révolutions, hein. Oui, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se produit, qui est gigantesque. C'est une approche de la médecine qui est différente. Voilà, il y a toutes sortes de progrès qui sont là derrière. Et je pense que c'est que même les gens déjà vivants, déjà nés, pourront en bénéficier. Donc, il y a peut-être des trucs aussi de, tu sais, des cures contre le cancer.
Oui, bien sûr. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps avec le procédé du time weaver. Tu sais, ce procédé qui permet de lire la fréquence cellulaire de tout le corps et de capter quelles sont les cellules qui n'ont pas le même son, donc du coup qui sont soit fatiguées, soit déclinantes, tu vois,
et de
les faire remonter en vibration pour qu'elles redeviennent saines et du coup recréer un terrain complètement sain. Et le Time Weaver, je crois que ça a été créé il y a 20 ans, c'est allemand. La machine coûte un peu cher. Mais voilà, ça existe en fait.
D'accord. Donc, je ne sais pas ce que c'est moi, mais bon.
Oui.
Peut-être non, pas.
Voilà, je pense que ça, c'est certainement ce biais-là qui va changer énormément de choses. Oui, c'est possible. C'est vraiment passionnant, c'est incroyable. Et j'ai une question justement sur ça, en allant voir un petit peu les tendances du futur. Est-ce que toi, tu vois quelque chose de globalisé dans le monde entier, la même chose? Où on retrouve quand même cette identité nationale de temps en temps.
Alors non, j'ai plutôt l'idée de non, c'est plutôt les unions, c'est plutôt de l'union qui apparaît. En tout cas, j'ai l'impression plutôt en Europe. J'ai plutôt l'impression que les pays s'associent, s'unissent. C'est quand même plutôt cette tendance-là, moi, qui apparaît.
L'unité, d'accord.
Ouais. Et tu vois, entre nous, quand je te disais tout à l'heure, dans 10 ans, le régime politique en France, il a l'air de changer. Donc, et on a l'impression que l'élection présidentielle de 2032, on dirait que c'est pas vraiment un président qu'on élit. Moi, une de mes interprétations, donc ça, je sais pas, c'est une interprétation que je fais.
Oui.
Bah, je me demande si c'est pas parce qu'il y a une espèce de gouvernement européen qui a pris la place.
Oui, mais c'est pas étonnant. Mais déjà, Emmanuel Macron, là, est président de l'Europe, hein, là.
Bah oui, alors voilà, alors on voit bien.
Déjà, en fait.
On voit bien qu'il y a, oui. Oui,
mais oui, ça arrive,
oui. C'est pas un président qui est élu.
Là, ce qu'ils font, ils font une présidence tournante. Donc, tous les 6 mois, ça change.
Ouais.
Pour voilà faire goûter un peu tout le monde à ce rôle-là, et je pense que oui, ensuite ça sera mais c'est très clair ce que tu dis, ça me paraît très clair.
Ouais, moi je pense qu'on va vers ça, donc on va pas du tout vers de la désunion du tout en termes de voilà de d'union, je pense voilà ça, c'est plutôt ça. Après tu vois, par exemple, j'ai une drôle d'impression aussi sur les États-Unis, où je me demande s'il n'est pas, on dirait que c'est pas impossible qu'il y ait de la désunion là-bas.
Oh, waouh, ok.
Ouais. Donc, bon, j'en sais pas.
C'est tellement vaste, il y a tellement de disparités d'un État à l'autre, à un moment donné, ça va craquer, c'est sûr.
Voilà, donc...
Ouais, c'est passionnant, vraiment, c'est incroyable, quoi.
Ouais, moi j'adore, donc... Donc du coup c'est vrai que moi je me passionne beaucoup pour ces sujets-là un peu de perspective, ou même sur des choses très très quotidiennes, enfin voilà, je me dire bah tiens
l'alimentation par exemple, est-ce qu'on va s'alimenter pareil,
est-ce qu'on va manger des insectes,
ouais, la viande, est-ce qu'on va arrêter la
ah, oui ça va s'arrêter ça, oui
ouais.
Oui,
aussi.
ça va s'arrêter. Je pense qu'on va, on va plus manger de viande. Enfin, voilà, je pense. Enfin, ça c'est, je sais pas si c'est très intuitif, mais le monde
Oui.
va devenir végétarien. On n'aura pas le choix, ce sera pour des raisons climatiques.
Oui, bien sûr. Et du coup, toi, est-ce que tu... Bon, les avantages de capter tout ça, on les voit, c'est que ça permet peut-être aussi d'anticiper certaines choses ou de se
Oui.
juste se préparer mentalement.
Oui.
Et les inconvénients, ce seraient lesquels d'après toi?
Bah, les inconvénients, je sais pas si j'en vois beaucoup, à part peut-être d'être un peu perturbé par ce que l'on perçoit, parce qu'on les comprend pas, ou parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu perçois une situation future et que tu vois pas le lien avec ta situation présente, que tu vois pas comment tu passes de l'un à l'autre, bah c'est un peu étonnant quoi, c'est un peu flippant, ou ça donne même envie de dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc ça peut générer ça peut faire peur en fait. Et
Bien
ce
sûr.
qui fait peur souvent, c'est ce qu'on comprend pas. Donc comme on comprend pas nécessairement tout ce qui est perçu dans le monde du futur, bah oui, ça fait peur.
Et j'aimerais clôturer cet épisode en posant cette ultime question. Comment va se développer la spiritualité? Qu'est-ce que tu pressens, toi, pour les 5, 10, 15 prochaines années?
Ben moi, je pense qu'on va ben, la spiritualité. Voilà, les questions de spiritualité se développent beaucoup. Alors, ça fait partie d'une des autres choses aussi. Moi, j'ai l'impression. Alors, c'est très étrange, mais j'ai l'impression que dans les 20 ans qui viennent, le pouvoir des religions monothéistes va extrêmement diminuer, va baisser. Et je sens en fait, je me demande même s'il n'y a pas des religions qui disparaissent. Alors, je pense que c'est un peu excessif de dire ça. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression que ça part en couille complètement et ça, c'est comme si ça s'arrêtait. Donc on dirait que ça meurt. Bon, de toute façon, voilà, les religions aujourd'hui, elles sont déjà à moitié en soins palliatifs, hein. Non, mais on sent qu'il y a un truc qui pour moi est en train de couler.
Oui, qui
Et
n'est
donc
plus cohérent avec
voilà,
un système
voilà.
de,
Et
avec un
ça.
éveil de conscience, en fait.
Voilà. Voilà. Donc moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Parce que c'est pas parce que les religions s'éteignent que la spiritualité s'éteint. Ça n'a rien à voir. Hein, on
Ah,
est bien
ça n'a rien
d'accord.
à voir du tout.
Oui, bien sûr. Donc les spiritualités, au contraire, je pense que chaque individu sur Terre développe est sur. Enfin, je pense que ça prend de plus en plus de place. Et moi, il me semble aussi qu'il y a quelque chose qui va être majeur. Et là, c'est dans pas longtemps. Je pense, c'est la vie extraterrestre. Et donc, c'est l'annonce de la vie extraterrestre. À mon avis, elle est déjà découverte, mais elle n'est pas encore annoncée. Et donc, ça va arriver bientôt. Et ça va être une révolution aussi. Ça va être un gros, gros, gros. Ça
Mais
va être
c'est incroyable.
une révolution un peu cognitive.
Bien sûr.
Ça va être la preuve que voilà, la vie n'est pas unique sur Terre. Et donc ça, d'un point de vue conscience, ça va être une source d'évolution pour l'humanité.
Tu sais, Alexis, ce matin, j'ai fait une story sur Instagram où j'expliquais que j'ai l'impression quand je vais faire mes courses, que je suis dans la rue et que je croise des gens, de pas voir, en fait, de voir des sortes d'hybrides avec des costumes d'humains et qu'il y en a plein de différents. Et donc, toi, tu me parles de l'existence des extraterrestres
Alors,
sur d'autres planètes.
j'ai
Est-ce
dit
que
une
tu...
vie extraterrestre. Hein.
Comment?
J'ai pas forcément dit une vie intelligente. Ce que je te dis, c'est que là, je pense, à mon avis, c'est dans moins de 10 ans, il y a l'annonce de la découverte d'une vie extraterrestre. Mais ça va être quoi? Des microbes, peut-être, tu vois? Donc, mais après, donc, on n'est pas encore à l'étape d'une vie intelligente. C'est pas là, c'est pas tout de suite. Mais ça va arriver. Mais c'est pas
Mais
tout de suite.
c'est hyper intéressant cette nuance que tu fais entre la vie extraterrestre et la vie intelligente.
Oui, ce qu'on appelle la vie intelligente, c'est la vie, c'est une civilisation extraterrestre qui quelque part de manière officielle, si tu veux, ça je le sens pas tout de suite. Mais
D'accord.
ça, oui, ça, en fait, c'est déjà là en vérité, on le sait.
Ouais.
Mais c'est pas, je parle d'annonce officielle, si tu
Ouais.
veux, quelque part où c'est acté.
Bien
Hein.
sûr, bien
C'est, voilà,
sûr.
ça existe, c'est vrai, voilà, on en a la preuve. Et je sais pas, c'est la NASA qui te le dit.
Ouais.
Je te montre en photo, en microscope, des bactéries qui ont été trouvées sur un astéroïde et elles sont vivantes. Donc,
OK.
tu vois, ou sur Mars, ou je sais pas, enfin, tu vois,
Bien sûr.
c'est ça. Bon. Donc, en fait, en soi, c'est pas gigantesque, mais c'est
Oui.
quand même, d'un point de vue conscience globale, c'est gigantesque quand même. Et je pense que c'est ça. Donc ça, ça va amener une évolution prodigieuse dans les consciences. Et je ne sais pas si ça participe pas aussi à l'effondrement des religions dont on parle.
Ok, ok. C'est waouh, c'est fascinant. Tu viens de nous offrir un trailer.
Ah ben, on pourrait en dire d'autres encore.
C'est non, mais c'est extraordinaire. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Alexis, qui pourrait être intéressant pour les auditeurs et les auditrices? Sur ce qui peut arriver, ce qui va arriver, sur comment prendre les choses, sur
J'ai l'impression qu'il faut quand même garder de la confiance, de l'optimisme. Je crois qu'en fait c'est tout va pas si mal que ça quand même. Surtout nous en France, on a tendance à se flageller beaucoup, à être très pessimiste, etc. Donc je pense que justement quand on parle d'ouverture de conscience, c'est aussi avoir conscience de où on est, où on vit et de comment c'est le monde, comment sont les autres ailleurs. Ouais. Et je pense que on n'est pas si mal loti que ça. Ça va pas si mal que ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien du tout. Mais soyons un peu optimistes. Je trouve que on est dans un monde, dans une sphère médiatico, internet, etc., où en fait on est abreuvé toute la journée de mauvaises nouvelles. Quoi. Mmh. Ça nous fait descendre, quoi.
Totalement. Ça nous fait chuter.
Voilà. Donc je crois que recentrons-nous. Et ce que je crois aussi, c'est que on va. Et ça, c'est aussi un truc très positif. On va en direction de situations où chaque individu va être beaucoup, beaucoup plus en capacité d'agir, en capacité de compter, d'avoir du poids. Et ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, entre parenthèses, pour les amoureux de la démocratie. mais ça veut dire aussi que de plus en plus, on va avoir conscience qu'on a une responsabilité pour tout. Et donc, on pourra plus se reposer sur les autres, on pourra plus faire comme si on savait pas. En fait, on va tout savoir sur tout, tout le temps, ce qu'on veut. Donc, la responsabilité individuelle va augmenter.
Ouais.
Et cette responsabilité va amener de la conscience et du développement personnel.
Oh, génial. Bon, on a hâte.
Mais je pense que voilà, le mouvement, il est déjà en marche. Hein.
Bien sûr, on le ressent déjà, en fait. Oui, complètement. Complètement. Ben, merci mille fois, Alexis Tournier, de nous avoir livré toutes ces clés. C'est vraiment passionnant.
Ben, merci à toi, Mel. C'était super. Hein. On reparle quand tu veux.
Ah, avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé par les sujets du remote viewing, de la vision à distance, vous avez la possibilité de contacter Alexis Tournier sur Instagram. Je vous mettrai tout son compte, en fait, ou directement sur Iris, I-R-I-S, Intuition. Vous trouverez toutes les informations, les formations, tout ce qui peut vous proposer justement pour développer votre intuition. Voilà, Alexis, je te remercie mille fois.
Merci à toi, Amel, c'était super. Eh ben, porte-toi bien, bonne continuation. Et des grosses bises et grosses bises à tout le monde.
Merci, Alexis.
C'est l'instant autopromo.
C'est l'instant autopromo.
Tu connais sans doute déjà mon e-book Vibréo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon e-book Vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibréo. Au travers des 21 règles pour Vibréo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour vibrer haut, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
Spiritualista. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.